Europe Soir, Pierre de Villeneuve vous informe sur Europe 1.
Et nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Mais d'abord, votre journal. Bonsoir Sophie Tussaud.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
19h sur Europe 1.
Les Américains dans la rue au lendemain de la volte-face historique de la Cour suprême de révoquer le droit à l'avortement. Une décision qui fait réagir la majorité présidentielle en France. Elle veut désormais inscrire le respect de l'IVG dans la Constitution.
En Ukraine, les forces russes occupent désormais la ville de Severodonetsk. Les soldats ukrainiens avaient reçu l'ordre de se retirer hier. Bataille perdue ou repli tactique, on en parle dans ce journal.
Après 2 ans d'absence, c'était le grand retour aujourd'hui de la marche des fiertés en France. 500 000 personnes étaient attendues uniquement à Paris pour défendre les couleurs LGBT. La fête a battu son plein malgré la pluie.
Premier match amical des Bleus avant le début de l'Euro féminin de football dans 10 jours. La France affronte le Cameroun ce soir à Beauvais. Nous serons sur place. La tendance météo, Valérie Darmon.
15 départements en alerte orange orage. Ils tonnent déjà de l'Occitanie au centre et la nuit prochaine, les orages se multiplieront de la Bourgogne à la Lorraine, tandis que dans l'ouest, vous retrouvez de belles éclaircies.
Météo complète en fin de journal. Et des manifestations aujourd'hui partout aux États-Unis pour protester contre la décision de la Cour suprême de révoquer le droit à l'avortement.
La Cour suprême laisse désormais le droit aux États d'autoriser ou d'interdire les IVG sur leur sol. Depuis hier, 11 États ont déjà choisi de les interdire ou de les limiter. À terme, c'est la moitié des 50 États américains qui devraient avoir pris cette décision. C'est pourquoi des milliers de personnes descendent aujourd'hui dans la rue pour dire leur refus de voir le droit des femmes à interrompre leur grossesse enterrée, Zoé Pallier.
Oui, par exemple, à Washington, les manifestants se sont de nouveau rassemblés ce matin devant le bâtiment de la Cour suprême. Des hommes, mais surtout des femmes qui scandent « My body, my choice »,« Mon corps, mon choix » et font entendre leur détermination.
Il faut qu'on sorte dans la rue et qu'on y reste. C'est la responsabilité de chacun. Comment vous pensez qu'on a gagné le droit à l'avortement ? Dans la rue !
Voilà, les démocrates s'organisent eux aussi. La gouverneure de l'État de New York a été la première à réagir hier. Elle a promis d'investir 35 millions de dollars pour faciliter l'accès à l'IVG. À l'autre bout du pays, les gouverneurs de Californie, de Washington et d'Oregon ont publié une vidéo où ils décrivent la côte ouest comme un futur refuge pour toutes les femmes désireuses d'avorter.
Nous continuerons à protéger les patientes de tous les États qui viendront ici se faire avorter.
Nous défendrons tous les professionnels de santé qui aideront les patientes à recevoir des soins dans nos États.
Nous résisterons aux justiciers cherchant à enquêter sur ces patientes.
Nous allons étendre l'accès à l'avortement pour celles qui en ont besoin.
La porte-parole de la Maison-Blanche vient justement d'assurer que Joe Biden défendra bien le droit des femmes à traverser les frontières pour avorter.
Zoé Pallier, pour ne pas marcher dans les pas des États-Unis, La République En Marche veut inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution. Le groupe de la majorité présidentielle a déposé une proposition de loi en ce sens. Elisabeth Borne, la première ministre, assure qu'elle la soutiendra. Il y a 2 ans, un texte avait déjà été déposé en ce sens, mais pourtant retoqué par l'Assemblée. Elsa Fossillon, députée du groupe Gauche démocrate républicaine, faisait partie du groupe à l'origine de la précédente demande.
On avait fait cette proposition à la fois au travers de propositions de loi, mais aussi d'amendements. Et à chaque fois, la majorité En Marche avait refusé cette proposition. Je vois qu'il en est autrement aujourd'hui. Nous nous en félicitons. Encore faut-il que cela aille jusqu'au bout. Je dirais qu'il y a un aspect symbolique fort. C'est consacrer quelque part le droit des femmes à disposer de leur corps. Puis il y a une autre chose, c'est le protéger concrètement des possibles avancées des réactionnaires dans notre pays. Quand je vois aujourd'hui qu'il y a 89, par exemple, députés du RN à l'Assemblée nationale, qu'il faut protéger à tout prix. Et c'est vrai que la constitutionnalité le protège un peu plus encore qu'une simple loi.
Elsa Fossillon, députée du groupe Gauche démocrate républicaine. L'actualité de ce samedi, c'est également le 122e jour de guerre en Ukraine. Et les taux russes semblent une nouvelle fois se resserrer davantage autour du Donbass. Les combats font toujours rage dans l'est du pays. Le maire de Severodonetsk, verrou stratégique de la région, est désormais entièrement occupé par les Russes. C'est ce qu'a annoncé le maire de la ville cet après-midi. Les forces russes y contrôlent l'usine d'azote ainsi que l'aéroport. Elles sont également entrées dans l'icite chance que la ville voisine. Le Donbass est-il en train de tomber pour le général Jérôme Pellistrandi, spécialiste des relations internationales? Laisser Severodonetsk est plus un choix stratégique de l'Ukraine qu'une prise de force russe.
Severodonetsk avait un côté symbolique, hein, mais il était inutile pour les Ukrainiens de continuer à perdre des soldats pour une bataille qui, de toute façon, aurait été à un moment donné perdue. La conquête de Severodonetsk peut permettre à Poutine de dire qu'il a libéré, entre guillemets, l'oblast de Lugansk, hein, l'oblast de la région de Lugansk. Mais c'est une victoire qui leur a coûté extrêmement cher. Il aura fallu aux soldats russes plus d'un mois pour conquérir 5 kilomètres d'une agglomération industrielle. Et donc, il va falloir du temps pour que ces forces puissent, en quelque sorte, reprendre des forces et relancer l'offensive. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir ce que les Russes vont faire. Est-ce qu'ils sont en mesure de poursuivre l'offensive et en particulier de s'emparer de Lysychansk et après de progresser sur Kramatorsk, ou est-ce qu'ils ont besoin d'une pause tactique? Et ça, c'est une question que l'on verra dans les jours et semaines à venir.
Le général Jérôme Pellistrandi avec Guillaume Dominguez pour Europe 1. Et dans le cadre des combats actuels, des missiles ont été tirés depuis le Bélarus, allié diplomatique de la Russie dans la région de Tchernigiv. Moscou indique ce soir qu'il livrera dans les prochains mois au Bélarus des missiles capables de transporter des têtes nucléaires. Comme lors du sommet européen cette semaine à Bruxelles, l'Ukraine, il en sera également question au G7 qui s'ouvre demain en Allemagne. Emmanuel Macron devrait arriver dans une demi-heure maintenant à Munich. Joe Biden a quitté les États-Unis en début d'après-midi. Les dirigeants des 7 pays les plus industrialisés de la planète vont parler du soutien à apporter à l'Ukraine 4 mois après le début de l'offensive russe. Arthur Delaborde.
Oui, les dirigeants des grandes puissances devraient notamment discuter de l'appel lancé cette semaine par le chancelier allemand en faveur d'un plan Marshall pour la reconstruction de l'Ukraine, un projet qui coûtera des milliards, s'inscrira dans le temps et impliquera plusieurs générations, a prévenu Olaf Scholz. Le président ukrainien s'entretiendra lui après-demain avec les 7 leaders par visioconférence. Volodymyr Zelensky devrait leur demander plus d'armes et d'accentuer encore la pression sur la Russie. Les conséquences de la guerre seront également à l'ordre du jour, l'inflation et la crise énergétique, au moment où Berlin accuse notamment d'avoir drastiquement baissé ses livraisons de gaz pour mettre en difficulté les Européens. Dans ce contexte, pour envoyer un signal fort sur la scène internationale, plusieurs pays ont été invités à participer au sommet. L'Indonésie, l'Argentine, mais surtout l'Inde, le Sénégal et l'Afrique du Sud. Ces 3 derniers pays s'étaient abstenus à l'ONU lors du vote condamnant l'invasion de l'Ukraine par la Russie.
Arthur Delaborde, envoyé spécial d'Europe 1 à Munich. C'est la piste terroriste islamiste qui est privilégiée après la fusillade la nuit dernière à Oslo, en Norvège. Un homme a ouvert le feu vers 1h du matin à l'extérieur d'un pub en plein cœur de la ville, puis près d'un bar gay. 2 personnes ont été tuées, 21 autres blessées. L'auteur présumé des tirs a été interpellé. Il s'agit d'un Norvégien d'origine iranienne de 42 ans, connu des services chargés de l'antiterrorisme. À la suite de cette attaque, la Norvège relève son niveau de vigilance. Roger Berg est le patron du PST, le service des renseignements norvégien.
La fusillade à Oslo dans la nuit du 25 juin élève le niveau de menace terroriste de modéré à extraordinaire. L'agresseur était connu du PST depuis 2015. Il a une longue histoire de violence et de menaces. Le PST craignait qu'il soit radicalisé et ait rejoint un réseau de contacts islamistes en Norvège. L'histoire montre que les attaques terroristes ont un potentiel à inspirer d'autres actes du même genre. Le PST s'efforce donc maintenant à empêcher toute action consécutive à ces actes. Mais jusqu'à présent, les informations ne donnent aucune indication à ce sujet.
Roger Berg, le patron du renseignement norvégien. Depuis ce matin, en signe de solidarité, des drapeaux arc-en-ciel et des fleurs ont été déposés près des lieux de la fusillade en hommage aux victimes. Et à la suite de ce drame, la marche des fiertés LGBT qui devait avoir lieu cet après-midi à Oslo a été annulée. En France, où avaient lieu les Prides, les autorités ont été appelées à la vigilance par le ministère de l'Intérieur, notamment à Paris. Des préoccupations sécuritaires dans les esprits, mais qui n'ont pas empêché les militants de se rassembler. 500 000 personnes étaient attendues pour faire la fête. Mathieu Limongi a suivi le cortège pour Europe 1.
Marche pluvieuse, mais marche heureuse. Après 2 ans de crise sanitaire, la Pride reprend des couleurs aujourd'hui avec le grand retour des célèbres chars et des concerts. Ambiance plus festive, donc pour le plus grand bonheur des participants comme Samuel et Kylian.
Ouais, c'est le retour des chars. L'année dernière, c'était un peu vide. Les chars, ils étaient pas là. L'ambiance a été différente.
Ouais, on est juste là pour profiter, pour danser.
Toujours les droits parce que c'est important un minimum.
Le principal, c'est que tout le monde s'aime.
Ouais, enfin, pas trop non plus quand même.
À quelques mètres, Célia fait sa toute première marche des fiertés avec ses amis. Drapeau arc-en-ciel sur les épaules, le visage tout en couleurs et surtout des étoiles plein les yeux.
C'est incroyable, j'ai l'impression je me sens plus chez moi ici que chez moi, en communion et tout le monde est super joyeux et c'est trop bien.
Aujourd'hui c'est la Pride, c'est très très important pour nos droits et nous quoi.
En plus on se sent bien parce qu'on voit que personne nous juge, c'est familial, tout le monde est content et voilà quoi.
Et comme Célia, André ou Mélissa, ils sont des milliers à se rassembler en ce moment même sur la place de la République pour une soirée entière de festivités.
Mathieu Limongi, cette question à présent, à une dizaine de jours des premiers départs en vacances, les congés d'été seront-ils gâchés par les grèves? On s'interroge car la colère sociale gronde. Ce week-end, les personnels navigants et de sol de la compagnie à Bakou Ryanair sont en grève. Chez Air France et Transavia, la contestation prend de l'ampleur. La SNCF annonce déjà que les cheminots cesseront le travail le mercredi 6 juillet. Autant de mouvements qui risquent de profiter au transport routier par bus, un secteur qui s'attend à un été sans précédent sur les routes de France. Noah Moussa.
Oui, les compagnies d'autocars Flixbus et Blablacar se préparent à un été record sur les routes de France. 10% de réservations en plus par rapport à la période d'avant-crise. Une augmentation qui réjouit Charles Billiard, porte-parole de Flixbus France.
Le 16 juin dernier, on a connu notre record de réservations depuis la création de Flixbus. On vit vraiment une période assez exceptionnelle.
Un succès également dû à la décision des compagnies de cars de ne pas répercuter la hausse du prix des carburants sur le prix des billets. Le car s'impose donc comme une solution économique, explique Nicolas Brusson, directeur général de Blablacar, qui propose aussi des trajets en bus.
On est sur des trajets beaucoup moins chers dans l'ensemble que tous les autres moyens de transport. Si on prend un Paris-Rennes qu'on réserve tôt, on peut être sur des prix très bas, on peut être sur du 10 euros, 15 euros, 20 euros. Et de manière générale, on est souvent à des prix qui sont deux fois inférieurs à ce qui va se pratiquer sur le train.
Les professionnels du secteur sont très optimistes. Ils prévoient une hausse de 20% de leur nombre de clients dans les trois prochains mois.
Noah Moussa.
Et on passe au sport. Et on commence par le foot.
Un match amical féminin ce soir. France-Cameroun à Beauvais à partir de 21h10 et à suivre en intégralité sur Europe 1. Bonsoir Cyril de la Morinerie.
Bonsoir.
Vous êtes à Beauvais pour Europe 1. Cette rencontre à 10 jours du début de l'Euro féminin en Angleterre va permettre aux joueuses de Corinne Diacre de se tester avant le début de la compétition.
Oui, c'est plus qu'un match amical, c'est vraiment un test grandeur nature pour cette équipe de France avant l'Euro. Les Françaises qui depuis deux semaines s'entraînent de façon intensive. D'abord c'était à Anglet dans le Pays Basque et puis à Clairefontaine. Elles vont pouvoir s'étalonner ici à Beauvais face au Cameroun, huitième de finaliste du dernier mondial, qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations. Les Bleus privés ce soir de leur maître à jouer Grace Gueyoro, victime d'une entorse du genou gauche. Eh bien ces Françaises doivent continuer donc à emmagasiner de la confiance. C'est une équipe offensive avec Katoto et Diani, les deux parisiennes attaquantes. C'est la troisième nation mondiale, cette équipe de France, qui est taillée pour remporter le prochain Euro, explique Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, que nous avons rencontré avec Jacques Vendroux pour Europe 1.
On vient de faire 14 matchs de rang sans défaite. Et donc l'équipe joue de mieux en mieux. Il y a une cohérence dans le groupe, il y a une estime pour le coach. Et très franchement, ça se passe bien.
Voilà, Noël Le Graët, vous pourrez entendre d'ailleurs dès 20h dans l'émission de Lionel Rousseau dans Europe 1 Sport. Les Bleus, les Françaises donc, qui avaient battu en 2018 le Cameroun 6-0, affronteront vendredi prochain le Vietnam avant leur entrée dans la compétition européenne le 10 juillet prochain face à l'Italie en Angleterre.
Cyril ?
Oui ?
Il y a des frites ?
Alors écoutez, il n'y a pas de frites, mais je suis en face d'un laser game, d'un karting, d'un bowling. Il y a même une pizzeria et je suis sous un abri parce qu'il commence à pleuvoir de pas mal. Pas des halbards, mais presque.
Bon, bah vous êtes
donc il y a
abuser.
Tout ce qu'il faut.
Bon,
il y a tout ce qu'il faut, on va pouvoir s'amuser. Mais enfin, on va quand même aller commenter le match. Hein.
Merci Cyril de la Morinerie, on écoutera ça évidemment dans Europe 1 Sport. Bonsoir Lionel Rousseau.
Bonsoir Pierre, rap de frites à la cantine ce soir avant Europe 1 Sport pour toute l'équipe pour cette émission qui démarre à 20h en effet. Alors comme l'a dit Cyril, le match en intégralité, coup d'envoi à 21h10, on suivra ce match avec Cédric Chasseur, avec Cyril de la Morinerie. Juste avant, un entretien avec Kenza Dali qui fait partie de ce groupe pour jouer l'Euro et les Français sont bien placés en effet. Ce sera un match de réglage plus exactement car le Cameroun n'est pas un adversaire qui risque d'inquiéter l'équipe de France. Et on entendra l'interview en intégralité, en exclusivité de Noël Le Graët, qui parle notamment, et là, des hommes et de la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Quid de Didier Deschamps, Quid de Zinedine Zidane, qui tape toujours à la porte de l'équipe de France. Voilà ce que dit Noël Le Graët, et vous l'entendrez ce soir beaucoup plus en détail au micro de Jacques Vendroux et de Cyril Delamouhennerie. Si l'équipe de France masculine est dans le dernier carré, en demi-finale, lors de la Coupe du Monde au Qatar, il proposera à Didier Deschamps de prolonger. Ça veut dire que si les Français sont en demi-finale, au moins
c'est une obligation à moitié de résultat.
Zidane ne sera pas sélectionneur. Voilà.
Et ben voilà. Comme ça, c'est dit, c'est fait. Et c'est ce soir dans Europe 1 Sport. Merci beaucoup, Lionel.
On poursuit l'actualité sportive avec cette information en tennis. Premier titre pour Caroline Garcia depuis 3 ans. La Française remporte le tournoi de Bad-Homburg en Allemagne. Elle a battu en finale la Canadienne Bianca Andreescu 6-7, 6-4, 6-4. Et puis notez la déception de Nathalie Péchala, l'ancienne championne d'Europe de danse sur glace, n'a pas été reconduite à la tête de la Fédération française des sports de glace. Elle a été battue par Gwenaëlle Nourry. Pour Nathalie Péchala, sa concurrente était téléguidée par l'ancien président de la fédération, Didier Gayaguet. Il avait démissionné au printemps 2020 après avoir été accusé d'avoir couvert un entraîneur mis en cause pour viol et agression sexuelle.
On s'en souvient, vous avez raison de le rappeler. Merci beaucoup Sophie Tussaud. La météo, Valérie Ramon, c'est maussade demain, excepté sur le quart sud-est.
Effectivement. Alors déjà, on a 15 départements en alerte orange-orage, on le sait. Hein. Ils tonnent déjà de l'Occitanie au centre et la nuit prochaine, les orages vont se multiplier de la Bourgogne à la Lorraine. D'ailleurs, demain, entre l'Auvergne et le Rhône, il va faire mauvais toute la journée. Il en sera fini quasiment des orages, mais le ciel va rester bas, va rester gris. Seules les Alpes vont rester à l'écart du mauvais temps. Dans le nord-ouest, la journée est plus variable, avec de belles éclaircies qui reviennent, mais un fond de l'air assez frais. Centre, bassin parisien, Hauts-de-France, le temps reste mitigé toute la journée, un petit peu comme aujourd'hui, mais au moins il ne pleuvra pas. Et les températures sont inférieures au normal. Je le dis, il ne pleuvra pas au moins, mais je pense à la Terre qui en a quand même grandement besoin de cette pluie. Aquitaine, Poitou-Charentes, Pays de la Loire, le temps est assez nuageux là aussi et sec. Quelques éclaircies qui pourraient percer aussi l'après-midi sur la côte aquitaine, mais ce n'est pas gagné. Les températures, entre 18 à Guéret, Brest et Quimper et 32 à Marseille et Ajaccio. À Paris, 22 degrés, elles commencent à gagner quelques degrés ces valeurs.
Mais oui, on en a besoin. Merci beaucoup Valérie. Darmon, vous restez avec nous, 19h16. Dans un instant, le jazz à la française, signé Édouard Ferlet. Et puis cette France, est-ce qu'elle fait toujours rêver? On en parle avec Henri Guénaud, Anne Miller qui dirige le domaine de Chantilly et l'historien Fabrice Dalméda. Ça sera Panorama à 19h30. À tout de suite.